Oui, il y a déjà une vingtaine d'années, nous avions dans notre mouvement travaillé à un petit livre qui s'appelait L'insoutenable ambiguïté de l'aide. C'était déjà un peu prospectif. Alors, pour moi aussi, la question n'était pas tout à fait celle-ci, pour initier, puisque je vous le livre, parce que ça a un peu structuré la préparation de l'énoncé. Comment faire pour que l'accompagnement soit autre chose qu'un moyen de ne pas changer les pratiques? Ce n'est pas inintéressant. Et que serait, c'est la deuxième, un accompagnement qui irait dans le sens de l'égalité et pas seulement des chances? Alors, sur le premier point, on voit bien que, comme le disait Arnold Bach, ces mesures adressées à l'opinion, en fait, voudrait jouer un effet de leurre, et que signifie cette thématique de l'aide aux élèves en difficulté quand, dans le même temps, la maison s'effondre et qu'on participe à en saper les fondements à la fois institutionnels, structurels et au niveau des valeurs. Néanmoins, il nous faut nous intéresser à cette question de l'aide, hein, à travers cette opportunité qui nous est fournie. Des risques de cette aide, je commencerai par là. La multiplication des dispositifs, c'est quand même ce qui saute aux yeux de ce qui nous arrive en ce moment. On nous parle d'aide personnalisée, c'était l'actualité de la rentrée avec les nouveaux horaires dans l'élémentaire, la question de l'aide aux devoirs, la question des PPRE, la question de l'accompagnement éducatif. L'ensemble de ces aides peut aussi brouiller les pistes, et pas seulement, je l'ai entendu tout à l'heure, pas seulement pour les parents. Les professionnels eux-mêmes se disent aujourd'hui très très ennuyés. Ça peut amener à la confusion à la fois quant au public visé, qui mérite de bénéficier de quoi, et risque de confusion également quant aux missions et prérogatives des uns et des autres. Et ça pourrait faire que chacun attende de l'autre ce que lui ne fait pas. Deuxième problème, c'est que cette soi-disant aide risque d'exonérer, de changer l'ordinaire des classes. On a, avec l'aide personnalisée, finalement quelque chose qui désigne des élèves qui seraient hors jeu d'un ordinaire qui, ma foi, n'a pas à être changé. Et ça désigne une attribution causale unique du côté de l'élève ou de sa famille, sous-entendu, non dit, de son milieu. Donc une individualisation accrue qui risque fort de masquer la ségrégation sociale, ségrégation scolaire qui perdure. Non seulement ça évacue la question du changement de l'école, mais ça peut même contribuer à amplifier les facteurs discriminants. Sachant que les élèves sont pris en dehors, on risque d'avoir dans les classes, avec des horaires, je pense au moins pour l'élémentaire, plus contraints, une tendance à moins prendre le temps de la recherche, moins de faire de retour sur les erreurs, et d'aligner le rythme de la classe sur les moyens forts. Donc, d'organiser de fait, à notre insu bien sûr, une exclusion de l'intérieur de la difficulté scolaire. L'aide personnalisée, pour moi, c'est l'histoire d'une supercherie. Peut-être que c'est l'histoire de l'accompagnement scolaire personnalisé de l'éducation, de l'exclusion sociale. Une IEN aurait dit à ses jeunes collègues T1, les élèves en difficulté, vous avez 2 heures d'aide personnalisée pour vous en occuper. Pendant la journée, on avance. Que faire pour que l'accompagnement soit autre chose qu'un moyen de ne pas changer les pratiques? On pourrait aussi, puisqu'on est sommé en fait de fonctionner avec un cadre contraint, en profiter pour modifier le regard sur les élèves et leurs difficultés. Ce travail d'identification des difficultés pourrait être une belle occasion de travail en équipe. Quelles sont les caractéristiques communes, quelles que soient les matières, où ces difficultés se révèlent. De quoi ces erreurs sont-elles le symptôme ? S'interroger ensemble donc moins sur les origines possibles de ces différences que sur la nature de ces difficultés. Or, on le sait, les enseignants sont assez démunis et on voit bien qu'il y a là un bel espace qui mériterait un accompagnement des enseignants par une formation qui leur permette de renouveler les cadres d'analyse de ce qui fait justement difficulté des élèves. Je rappelle que le rapport de l'inspection générale sur les ZEP en octobre 2006 notait parmi les points qui faisaient problème dans les zones prioritaires une analyse insuffisante de la difficulté. Les élèves sont en difficulté. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Or, faute de savoir où on va, on arrive toujours ailleurs. Modifier le regard sur les élèves sur la difficulté. Deuxième point, mettre à jour les implicites. Peut-être qu'on pourrait aussi profiter de cet entre-deux institutionnel qui nous fournit là, parce qu'il y a moins d'élèves, une occasion propice pour l'observation plus fine des conduites improductives et pour identifier du coup les zones de malentendus. Quelle est la nature des difficultés des élèves ? Est-ce un manque de sens du contenu, faiblement investi parce que les élèves disent « pour moi, ça ne sert à rien » ? Est-ce que c'est une méprise sur le but de l'activité ? On connaît les études qui ont été faites en didactique de la lecture, de ces élèves qui se méprisent sur, en fait, pour lire, il faut déchiffrer l'ensemble des mots et se poser la compréhension, le problème de la compréhension à la fin du texte. Je renvoie à l'étude de Guagou, entre autres, là-dessus, mais il y a de beaux numéros de repères sur cette question-là. Ou qui pensent que, ben, finalement, les problèmes, c'est pour faire des opérations. Bon, donc, il y a un tas de malentendus là sur le but de l'activité. Ça peut être également, mais en lien avec ce point précédent, l'inadéquation des moyens pour être pertinent dans l'activité. Ça peut être encore des techniques de travail inadaptées ou insuffisamment entraînées, routinisées. Mais ça peut être aussi, pour des collégiens, c'est pas rare, de devoir mal copier. Mal copier faute de temps. Et là, on s'aperçoit que souvent, des élèves, non seulement le travail à faire est donné à la fin du cours, dans l'urgence de la sonnerie, mais que certains, faute d'avoir entraîné depuis les petites classes à la copie, se trouvent en plus doublés leurs moindres appétences et compétences dans l'espace du cours par une difficulté à pouvoir noter la commande qui leur est passée. Beaucoup d'enseignants impliqués dans l'accompagnement à la scolarité disent, suite à cette prise de conscience distanciée, ne plus faire leurs cours comme avant. Donc encore faut-il avoir l'occasion de changer de place, de se mettre dans la posture du parent qui accueille le travail de l'école ou du travailleur social, confronté à un travail qu'il n'a pas donné et à un domaine qui n'est pas sa spécialité. Donc ça pose la question de qui doit faire l'aide personnalisée. Ou à minima, est-ce que ce qui se dévoile là fait retour sur l'ordinaire scolaire ? Troisième point, on pourrait aussi imaginer que ce sont des espaces à partir desquels on va essayer de déplacer le statut des élèves de la classe. Outre l'information sur la nature des difficultés, outre les lièvres qu'on a pu lever sur cette attention de proximité, je crois qu'il va falloir lutter contre les risques inhérents à ces structures un peu à part, un peu en marge, contre les effets de stigmatisation et de dévalorisation. Comment ? Peut-être par la prise en compte et la valorisation de ce qui se fait dans cet espace tiers. M'arrivait souvent de voir arriver des élèves pris en charge par les RASED dans l'élémentaire. L'élève part et revient. La suite du cours se continue sans qu'il y ait de perturbation, sans que l'élève soit accueilli, sans qu'on lui fasse une récapitulation de ce qui s'est fait pendant son absence. Je vous rappelle que, Alain Mingat, en son temps, dans les années 90, avait produit une étude qui avait fait hurler dans l'univers syndical sur les groupes d'aide psychopédagogique, disant finalement à difficultés semblables, mieux valait pour les élèves ne pas être passé par les dispositifs qu'y être passé. On avait oublié qu'il disait que deux des dispositifs échappaient à cette règle générale. On y faisait visiblement autre chose. Et en essayant d'analyser les facteurs qui pouvaient tendre à faire que ces groupes d'aide soient plus discriminants, parmi les facteurs, il y en avait deux. Un, l'effet de marquage et de stigmatisation. Ça ne doit pas être bien normal pour être pris en charge dans ces structures. Deux, le fait que ces élèves, évidemment, avaient un temps d'enseignement moindre que les autres, sans que jamais on ait vraiment souci de les réintégrer dans le train en marche. Donc, prise en compte et valorisation de ce que font les élèves dans ces espaces, ça signifie le souci d'intégration d'élèves, ça signifie aussi la continuité du travail intellectuel et formatif, voire même on peut aller jusqu'à ce que la marge devienne le modèle pour tous. Intéressant quand certains élèves, et ça c'est une collègue coordinatrice de classe relais qui me dit ça, et voilà, dans mon bahut, il y a des élèves qui m'ont demandé « Mais comment est-ce qu'il faut faire pour bénéficier des dispositifs relais ?» Ça a l'air drôlement bien ce que vous faites. Donc provoquer une dynamique telle qu'on ait une sorte de renversement de cet effet de stigmatisation. Quatrième point, pour que ça puisse, évidemment, il faudrait que ces dispositifs amènent à modifier les postures et pratiques professionnelles. Suite à ce que je viens d'exposer, ayant davantage conscience des impensés, des fausses évidences, des « ça va de soi », qui est souvent le lot du corps professoral, quant au contenu, quant aux méthodes de travail, quant aux techniques intellectuelles, peut-être qu'il faudrait aller vers un alignement du pilotage de la classe sur les plus fragiles. Avec un souci constant de clarté cognitive, c'est pas neuf, hein. Fijalkoff et d'autres ont bien travaillé là-dessus. Clarté cognitive depuis les amonts de l'activité jusqu'à sa clôture. Je rappelle encore une fois que le rapport Armand sur les ZEB d'octobre 2006 disait manque d'explicitation des enjeux scolaires, de la finalité des apprentissages, des attentes enseignantes, manque de continuité des apprentissages et en fin de séquence, dommage que ne soient pas plus mis en évidence les acquis à la fois notionnels et procéduraux pour faciliter les transferts. Alors, qu'est-ce que pourrait être un accompagnement qui irait dans le sens de l'égalité et pas seulement des chances ? Peut-être qu'il faut essayer d'éviter les écueils. L'aide et l'accompagnement, on n'est pas tout à fait naïf, ça fait quand même maintenant quelque temps que c'est en place, à travers des structures, à travers des prises en charge ponctuelles, à travers des heures soutien dans les collèges, ou de façon plus souple, à l'intérieur même des classes. Qu'est-ce qui fonctionne souvent à notre insu ? Je crois qu'il nous faut faire un balisage critique de ça. Ce qui se passe souvent, cette première tendance, c'est de regrouper les élèves faibles, de leur faire reprendre les basiques. Mais c'est aussi avoir des interventions qui consistent parfois à multiplier les activités pour les motiver, les faire réussir, qui consistent souvent à simplifier, fragmenter, et du coup à baisser les exigences, mais pour s'adapter à leur niveau. Et là encore, le rapport de l'inspection générale s'en fait l'écho. Ce qu'on voit aussi dans les classes à tout niveau, c'est des enseignants intervenir davantage et de façon personnalisée, utiliser des ruses de Sioux pour mettre l'ensemble de la classe en travail autonome afin de se libérer du temps, de l'énergie et de l'attention pour aller s'occuper des élèves qu'on estime les plus en difficulté. Et on voit donc un accompagnement beaucoup plus personnalisé, à la fois pour qu'ils entrent dans l'activité, mais en même temps pour qu'ils y restent, et en même temps pour apprécier le résultat. Madame, monsieur, est-ce que c'est bien ça ? Avec des élèves, évidemment, qui ne cessent de redemander la consigne et qui, en fait, font faire leur travail par l'adulte qui est à côté d'eux. On s'aperçoit que toutes ces aides n'influent que très peu ou trop peu sur leur comportement et sur les résultats, voire que ces modalités d'aide alimentent le besoin d'aide. Des collègues en collège nous disent, c'est vrai, il leur faut une heure de soutien en sixième, il leur en faudrait deux heures en cinquième. Quand ça ne dégrade pas l'implication et l'attention des élèves dans le cours ordinaire. Ainsi, un collègue de maths dit, il n'écoute plus dans le cours. Évidemment, dans l'attente du duel avec le prof de maths qui va être beaucoup plus chaleureux et intéressant. Dernière tendance, logique de rattrapage pour réparer, compenser, pallier à des insuffisances. Or, si vous vous êtes livré, on s'aperçoit que c'est vite un puits sans fond, tellement un certain nombre d'élèves ont cumulé des difficultés, il y a quelque chose de désespéré et donc de désespérant de part et d'autre de l'action d'aide. Est-ce qu'on pleure ? Quelles alternatives imaginer ? Et peut-être aller tout simplement à contre-pied de ces tendances. Sur quatre plans. Premièrement, sur la nature des tâches. Deuxièmement, sur les modes de travail. Troisièmement, sur la place et le rôle de l'adulte expert. Et quatrièmement, sur l'usage stratégique de l'aide. Je déplie un peu, si le temps... Oui, ça va. Bon. Nature des tâches. Si habituellement on va vers une simplification, fragmentation, une baisse d'exigence, il faut donc préserver une certaine complexité aux situations proposées dans ces espaces. Que ces situations soient un enjeu à la fois cognitif, un vrai problème à résoudre, en même temps qu'un enjeu identitaire. Vous savez, Albert Bandura, qui travaille sur la question de l'estime de soi, dit parmi les facteurs pouvant influer pour réhabiliter l'estime de soi, ce ne sont pas les choses faciles. C'est lorsque vous venez à bout d'une tâche que vous avez estimée initialement complexe que vous commencez à recroire en vos possibilités. Fierté retrouvée de réussir quelque chose de perçu initialement comme difficile. Préserver la complexité. Deuxième point, toujours sur les contenus, on nous parle de retour aux fondamentaux. Fondamentaux sous-entendus comme retour aux basiques, perçus comme techniques, perçus comme plutôt mécaniques. Peut-être que ce n'est pas ce fondamental-là qu'il faut réalimenter, mais qu'il faut penser plutôt des supports riches à résonance culturelle pour les élèves qui nous préoccupent. Résonance culturelle, voire anthropologique. Évidemment, c'est un clin d'œil appuyé au travail de Serge Boismard. Vous avez peut-être vu son dernier bouquin, « Ses enfants empêchés de penser », qui plaide pour, justement, un réaccrochage aux apprentissages de ces enfants déglingués par leur histoire, à partir de ce que les mythes disent de l'intime de moi, et qui sont à l'origine de ma peur, ma volonté de savoir, parfois, mais ma peur de penser, de se confronter à l'abéance, à l'inconnu, à l'incertitude. Donc, renouer grâce à des objets culturels puissants, la question de cette chose parle de moi. Alors, ça peut être de travail sur les mythes, si on prend les approches de Boismard, mais plus généralement, ce qui est dans le domaine des mathématiques ou des sciences, renvoie, en faisant un clin d'œil appuyé, à l'anthropologie. Qui touche évidemment à la question des origines. Toujours intéressant pour les élèves de s'apercevoir que l'humanité n'a pas cessé de se tromper, qu'on en a fait des bifurcations, des avancées, des retours en arrière, des emprunts interculturels, des abandons, des reprises. Bref, quand on voit qu'il a fallu 5000 ans pour mettre en place ce système de numération positionnelle décimale, on peut bien leur laisser quelques mois. Et même chose pour les codes symboliques comme l'écrit. Nature des tâches, donc, ambitieuses, et qui disent des choses sur le regard qu'on porte sur les élèves, conjointement. On se rappelle du propos d'une élève dont se plaignait un enseignant de SECPA en disant « Vous rendez compte, elle n'arrive même pas à faire ce travail. » On va voir la jeune qui nous dit « Mais pour qui elle me prend à me donner un problème comme ça ? Elle me prend pour une débile. » La nature des tâches que l'on livre aux élèves dit des choses sur le regard qu'on porte sur eux. Méfions-nous de ces fausses évidences sur la nature des tâches. Deuxièmement, sur les modes de travail. Les modes de travail, on nous dit, et c'est le texte cadre pour cette rentrée, l'aménagement du temps scolaire avait aide personnalisée. Et derrière aide personnalisée, on entend plutôt aide individualisée. Eh bien, tous les travaux nous montrent qu'il vaut mieux préférer le travail en groupe. Travail en groupe, pourquoi ? Parce que ça aide à sortir de la relation duelle, trop souvent parasitée par les affects. Je crains le regard de l'expert, je me la ferme pour ne pas dire de bêtises. On a souvent des élèves qui pensent qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut avoir tout juste, ou sinon c'est tout faux. Parasité par les affects, ou si on apprécie la personne qui vous aide, du coup on a peur de la décevoir. Dans les deux cas, on est mal placé, on a un affect qui vient parasiter le travail d'élaboration cognitive. Travail de groupe parce que c'est aussi un espace d'émulation réciproque, bien sûr. Autre tendance sur les modes de travail, tendance à l'homogénéité, je disais souvent, logique de groupe de niveau. Eh bien, il faut plutôt préserver une certaine hétérogénéité. Et là, je renvoie à l'étude aussi de Suchot sur les dispositifs d'accompagnement à la scolarité. Les plus performants sont ceux qui n'abandonnent pas sur la question des contenus. Deuxièmement, qui travaillent plutôt en groupe et, si possible, en groupe hétérogène et socialement et scolairement. Hétérogénéité parce qu'évidemment, ça facilite le jeu d'identification entre pairs et ça apporte une stimulation plus forte. Sinon, vous avez une gestion de groupe qui est complètement plombée avec des élèves qui restent muets. Troisième élément, sur la place et le rôle de l'adulte, entre guillemets, expert. On l'a vu, ce qui caractérise les interventions habituelles des adultes, outre le segmentage des tâches et l'accompagnement plus fort, le guidage extrêmement serré, hein, qui en fait renforce la relation de dépendance. Je ne reviens pas sur les travaux de l'équipe ESCOL qui a abondamment montré que ce qui caractérise les élèves en difficulté, c'est le manque de visibilité des buts de l'activité et donc aussi des moyens qui, du coup, sont dans une dépendance excessive à ceux qu'ils désignent comme experts dans l'espace scolaire ou hors scolaire. Eh bien, il faut sans doute que la personne présente là organise son retrait. Adopte, on pourrait dire, la posture du maître ignorant, pour reprendre Ancière. Leur signifie quelque part « je ne peux rien pour vous », de façon paradoxale. Ce « je ne peux rien pour vous » ouvrant symboliquement, justement, l'espace pour que les élèves investissent. Alors ça peut être quoi au-delà de ça? Ça peut être tout le travail, on voit bien dans la lecture des consignes, qui est souvent extrêmement rapide dans les classes, faire analyser la situation, identifier le but poursuivi, voire anticiper les moyens avec une interdiction de faire tant que ce travail n'a pas été amorcé. On est déjà dans l'activité avant de l'avoir commencé. Le deuxième point, évidemment, c'est d'aider les élèves à mettre les données en relation. Ils les mettent souvent en relation, mais de façon parfois peu pertinente. Donc c'est un travail sur la pertinence des mises en relation qu'on peut opérer dans ces espaces-là. C'est encore posture de maître ignorant qui les amène à convoquer les acquis antérieurs. Les élèves que nous préoccupent sont souvent les élèves qui s'imaginent que chaque leçon pousse l'autre et que, évidemment, il y a une difficile continuité des apprentissages. Parfois, provoquer retour suffit à. Et c'est enfin inciter à l'usage des outils référents qui ne manquent pas d'avoir dans les manuels ou dans les outils à disposition, ce que certains font, ce que d'autres font moins. Habituellement, les aides que l'on voit faire fonctionner dans l'espace d'accompagnement des devoirs ou à l'école à l'égard des élèves faibles visent à les faire réussir plus qu'à les faire comprendre. D'où la nécessité de faire réfléchir les élèves dans ces espaces, mais aussi bien sûr dans la classe, sur ce qu'on a appris, sur les moyens utilisés, sur les procédures de vérification. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien de faire en sorte qu'il se passe de nous, il s'agit bien de tendre vers l'autocontrôle. Dernier point, qui me semble être un point de rupture par rapport à ce qu'on voit habituellement dans l'aide, c'est l'aide, cette idée que l'aide, elle intervient toujours après que le mal soit fait. Et si on l'a pensé avant? Et si on permettait le pas d'avance de façon à ce que les élèves puissent retrouver leur groupe classe avec des outils et déjà à la fois quant aux objets travaillés, voire quant aux procédures intellectuelles convoquées, ayant commencé de déblayer le terrain. Voilà, grosso modo, ce que me semblerait être des choses qui pourraient aller dans le sens de l'égalité, mais vous avez bien compris que l'ensemble de ces points ne saurait se restreindre à l'espace de l'accompagnement et mérite d'être plus largement répandu dans l'ordinaire scolaire où s'initie le malaise face à l'école.